l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Dixième épisode.
Des entretiens qu'eurent le curé et le barbier avec Don Quichotte au sujet de sa maladie et de celui fort plaisant qu'eurent entre eux le vaillant Hidalgo, Sancho et le bachelier Sanson Carrasco. Le sage Sidi Ahmed Ben Engeli, poursuivant son récit, raconte que lorsque notre Hidalgo se vit encagé et hissé sur le chariot, il dit à son écuyer Sancho Panza:
j'ai pourtant lu bien des histoires de chevaliers errants parmi les plus célèbres, mais jamais je n'ai lu, vu ou entendu dire que les chevaliers enchantés fussent ainsi emmenés au pas lent et traînant d'une paire de bœufs. C'est toujours par les airs qu'on les emporte à une rapidité prodigieuse, enveloppés dans un épais et sombre nuage, ou bien sur un hippogriffe ou quelque autre animal du même genre. Et peut-être, à l'époque où nous vivons, la chevalerie et les enchantements suivent-ils une autre voie que celle des temps passés? Qu'en penses-tu, Sancho?
Mais moi, je n'en pense rien du tout, parce que je ne suis pas versé comme vous dans ces écritures-là.
Pendant que maître et serviteur conversaient ainsi, le curé s'était entendu avec les archers qui les accompagneraient jusqu'au village moyennant salaire. Puis le barbier et le curé montèrent à cheval, en gardant leur masque pour ne pas être reconnus de Don Quichotte. Ils allèrent se placer à l'arrière et toute la troupe s'ébranla dans l'ordre suivant. En tête, le chariot conduit par son propriétaire. De chaque côté, les archers avec leurs fusils. Venait ensuite Sancho sur son âne menant Rocinante par la bride. Nos deux compères fermaient la marche d'un air calme et grave, accordant le pas de leur bonne mule à la marche lente des bœufs. Don Quichotte était assis dans la cage, les mains liées, les jambes allongées, le dos appuyé au barreau, tellement silencieux et immobile qu'on l'aurait pris non pas pour un homme de chair et d'os, mais pour une statue de pierre. Ils marchèrent à cette allure et en silence pendant près de 2 lieues, au bout desquelles ils se trouvèrent dans un vallon.
Oh là ! Arrêtons-nous ici et reposons-nous quelques instants au frais.
Très bonne idée, maître Nicolas.
Pendant qu'ils mettaient pied à terre et que le charretier dételait les bœufs pour les laisser paître à plaisir dans la prairie verdoyante, Sancho s'approcha de la cage.
Monsieur, il faut que je vous dise, pour décharger ma conscience, ce que j'ai découvert à propos de votre enchantement. Ces deux hommes que vous voyez là, avec un masque sur le visage, ce sont le curé et le barbier de notre village. Je les soupçonne de vous avoir enfermé là-dedans, simplement parce qu'ils sont jaloux de la gloire que vous gagnez avec vos exploits. Cette vérité une fois admise, il s'ensuit que vous n'avez pas été enchanté, mais roulé dans la farine.
Tu dis que les deux hommes qui nous accompagnent sont le curé et le barbier. Il est possible qu'ils te paraissent que ce sont eux, mais qu'ils le soient réellement, tu ne dois le croire en aucune façon. S'ils leur ressemblent, c'est parce que ceux qui m'ont enchanté auront voulu prendre leur apparence.
Mon nom du ciel ! Est-il possible que vous ayez la tête tellement dure et si peu de cervelle dedans que vous ne voyez pas que ce que je dis est la vérité pure et que si vous êtes enfermé dans cette cage, c'est par méchanceté et non par enchantement ? Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais vous le prouver, moi, que vous n'êtes pas enchanté. Dites-moi, monsieur, sauf votre respect, depuis que vous êtes encagé, ou si vous préférez, enchanté dans cette cage, n'avez-vous pas eu envie de faire petit ou gros, comme on dit?
Je ne comprends pas ce que tu entends par petit et par gros.
Comment? Vous ne savez pas ce que c'est que de faire le petit besoin ou le gros? Mais les enfants apprennent ces mots-là au berceau. Bon, disons que ce que je veux vous demander, c'est si vous n'avez pas eu cette envie qu'on ne peut pas retenir.
J'ai compris, Sancho, j'ai compris. Oh oui, bien des fois.
Ah, je vous tiens. Et maintenant, monsieur, est-ce que vous oseriez nier qu'on dit souvent de quelqu'un qui n'est pas dans son assiette « Je ne sais pas ce qu'a un tel en ce moment, mais il ne mange plus, il ne boit plus, il ne dort plus, on dirait vraiment qu'il est enchanté. » D'où je conclus que ceux qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne dorment pas et qui ne font pas ces besoins naturels dont je viens de parler, sont enchantés. Et puisque vous, monsieur, vous avez ces besoins-là, que vous buvez ce qu'on vous donne, que vous mangez quand vous avez de quoi, c'est que vous ne l'êtes pas.
Ce que tu dis là est vrai, Sancho. Mais je t'ai souvent expliqué qu'il y a différentes sortes d'enchantements. Et puis, il est possible qu'avec le temps, les choses aient changé et qu'aujourd'hui, ce soit l'usage que les enchantés fassent tout ce que je fais, alors qu'auparavant, ils ne le pouvaient pas. Chaque époque a ses coutumes et on ne doit pas les remettre en question ni en tirer des conclusions hâtives. Pour moi, je sais et je suis certain qu'on m'a enchanté. Cela suffit à rassurer ma conscience, qui serait lourdement chargée si je pensais que je ne l'étais pas et que je restais dans cette cage par lâcheté et paresse, abandonnant à leur sort nombre de malheureux et d'affligés qui, en ce moment même, ont tant besoin de mon secours et de ma protection.
Crénom de nom, monsieur.
Ils se remirent bientôt en route. Six jours plus tard, ils arrivèrent au village. Comme c'était dimanche et qu'ils entraient en plein midi, tous les habitants étaient réunis sur la place quand le chariot la traversa. Ils se pressèrent pour voir ce qu'il y avait dedans, et quand ils reconnurent leurs compatriotes, ils restèrent stupéfaits.
Madame ! Votre oncle est de retour !
Que dis-tu là ?
Il arrive dans une charrette à bœufs. Et il est tout maigre et tout jaune.
Maudit roman de chevalerie.
Bientôt, Don Quichotte franchit le seuil de sa maison où l'attendaient sa nièce et sa gouvernante.
Que vous est-il arrivé, mon oncle ?
Mon Dieu, vous voilà bien mal en point, monsieur. Venez avec nous, que nous vous déshabillions.
Elles le couchèrent dans son vieux. Notre chevalier les considérait d'un œil soupçonneux, car il n'avait pas compris où il était.
Mesdames, prenez grand soin de votre oncle et maître. Et veillez à ce qu'il ne fasse pas une nouvelle escapade.
Oui, car nous avons eu beaucoup de mal à le ramener chez lui.
Oh, maudit roman.
Fasse le ciel que les auteurs de tant d'absurdités et de mensonges soient précipités dans un abîme sans fond.
Bref, elle n'était guère rassurée et s'attendait à ce que leur oncle et maître leur fassent accompagner dès qu'ils se sentiraient un peu mieux. Le curé et le barbier restèrent près d'un mois sans voir Don Quichotte, craignant que leur présence ne lui remît en mémoire ses récentes mésaventures. Ce qui ne les empêcha pas de rendre de temps en temps visite à la nièce et à la gouvernante, qui leur dirent que depuis quelque temps, leur maître manifestait par moments les signes de la plus grande lucidité. Ravis de cette bonne nouvelle, les deux hommes décidèrent de venir constater de plus près cette amélioration à laquelle ils n'osaient croire. Ils le trouvèrent assis sur son lit, vêtu d'une camisole de laine verte, et si maigre, si desséché qu'on l'aurait pris pour une momie.
Mes amis, soyez les bienvenus.
Comment donc à votre santé, mon cher ?
Fort bien, messieurs. Asseyez-vous donc.
Au cours de la conversation, ils vinrent à parler de ce que l'on nomme la raison d'État et des différents systèmes de gouvernement. Don Quichotte s'exprima sur toutes ces matières avec tant de discernement que les deux examinateurs ne doutèrent pas qu'il était bel et bien guéri. Cependant, le curé voulut en avoir le cœur net.
Êtes-vous au courant des dernières nouvelles arrivant de la capitale ? On dit que la puissante flotte du Grand Turc s'apprête à l'attaque, mais que nul ne sait en quel point va s'abattre l'orage. Toute la chrétienté est en émoi, et Sa Majesté a mis en état de défense les côtes de Naples, de la Sicile et de l'île de Malte.
Sa Majesté se conduit en homme de guerre avisé, et l'attaque ne la prendra pas au dépourvu. Mais si elle me demandait mon avis, je lui suggérerais d'adopter une autre disposition qui ne lui a sans doute jamais traversé l'esprit.
Hélas, mon pauvre Don Quichotte, voilà que tu retombes de la cime de ta folie dans l'abîme profond de ta naïveté.
Et quelle est, monsieur, cette importante mesure ?
Eh bien, Sa Majesté n'a qu'à proclamer que tous les chevaliers errants d'Espagne se rendent dans la capitale à jour fixé. Peu importe s'il n'en vient qu'une demi-douzaine, le moindre d'entre eux suffirait pour anéantir la toute-puissance ennemie. Ce ne serait pas la première fois qu'un chevalier errant viendrait à bout d'une armée de 200 000 hommes comme si tous ensemble n'étaient qu'une seule et même gorge ou qu'ils étaient faits en guimauve.
Hélas, je parie que mon oncle a l'intention de redevenir chevalier errant.
Et de le rester jusqu'à ma mort. Moi, je voudrais simplement donner à comprendre aux hommes l'erreur qu'ils commettent en ne revenant pas autant heureux de la chevalerie errante. Mais notre siècle dépravé n'est plus cette époque bénie où les chevaliers errants avaient à eux seuls la charge de défendre les royaumes, de protéger les jeunes filles, d'aider les orphelins, de châtier les orgueilleux et de récompenser les humbles. Aujourd'hui, la paresse triomphe du dévouement, l'oisiveté du travail, le vice de la vertu, la morgue du courage et la théorie des armes de sa pratique qui n'a existé, n'a brillé qu'au siècle d'or des chevaliers errants.
Que vient faire ce malotru dans notre maison ?
Allez, Oust !
Oust !
Retourne chez toi, parce que c'est toi, et pas un autre, qui débauche mon maître et l'entraîne sur les grands chemins.
Ah, maudite gouvernante ! Si quelqu'un a été débauché et entraîné, c'est bien moi, et non ton maître ! Vous êtes loin du compte, toutes les deux. C'est lui qui m'a emmené dans des pays perdus. Lui qui m'a tiré de ma maison en m'embobinant. Parce que l'archipel qui m'a promis, bah, j'attends toujours.
Va-t'en au diable avec tes archipels.
Tu n'entreras pas ici, canaille, sac à malice. Va donc gouverner ta maison et labourer ton beau de terre. Et laisse-nous en paix avec tes pelles ou tes archipels.
Taisez-vous, mesdames, et laissez-le entrer.
Suis-moi, Sancho. Oui.
Pardon, maître Nicolas. J'ai bien l'impression que, sans crier gare, notre gentilhomme va bientôt repartir battre la campagne.
C'est aussi mon opinion. Mais plus que la folie du chevalier, c'est la naïveté de l'écuyer qui me surprend. Il croit si fort à cette histoire d'archipel que rien ni personne ne leur ferait démordre.
Dieu les protège. Quant à nous, soyons vigilants et observons ce que donne l'alliance de ces deux fous. On les dirait vraiment couler dans un même moule. Et sans la bêtise du valet, les extravagances du chevalier ne vaudraient pas un sou.
Pendant ce temps, Don Quichotte s'était enfermé dans sa chambre avec Sancho Panza.
Je suis bien fâché, Sancho, que tu racontes à qui veut l'entendre que c'est moi qui t'ai obligé à quitter ton chez-toi, sachant parfaitement que je ne suis pas resté au coin de mon feu. Nous avons fait nos sorties ensemble. Ensemble, nous avons parcouru le monde, partageant le même sort et la même fortune. Si tu as été berné une fois, moi j'ai été moulu plus de 100. C'est mon seul avantage.
Ce qui est logique, monsieur, puisque selon vous, les mésaventures sont le lot des chevaliers errants, et non de leurs écuyers.
Tu te trompes, Sancho, car lorsque la tête a mal, tous les membres souffrent. En tant que ton seigneur et maître, je suis ta tête, et toi, l'un de mes membres, puisque tu es mon serviteur. C'est pourquoi le mal qui me touche ou me toucherait doit te faire souffrir, et inversement.
C'est bien possible. Pourtant, quand j'étais le membre qu'on faisait sauter dans la couverture, ma tête était derrière la clôture, à me regarder voler en l'air sans éprouver aucune douleur. Puisque les membres doivent souffrir quand la tête a mal, elle aussi devrait souffrir quand ses membres ont mal.
Tu veux dire que je ne souffrais pas quand on te bernait ?
Bah.
Tu n'as pas le droit de dire ni de penser une chose pareille, car j'avais plus mal dans mon esprit que toi dans ton corps. Mais laissons cela pour le moment. Dis-moi plutôt ce que l'on raconte à mon sujet dans le pays. Quelle opinion ont de moi les gens du commun, les gentilshommes ? Que dit-on de ma bravoure, de mes exploits, de mes amours ? Que pense-t-on de la tâche que je me suis donnée de ressusciter l'ordre oublié de la chevalerie errante ?
Alors je commencerai en disant que les gens du commun pensent que vous êtes complètement fou et moi complètement idiot.
Oh.
Les gentilshommes disent que vous vous êtes attribué le titre de chevalier et la particule, alors que vous possédez à peine 4 pieds de vigne et 2 arpents de terre, et tout juste de quoi vous vêtir. Pour ce qui est de votre courage, de vos exploits, vos amours, les opinions divergent. Fou mais divertissant, disent les uns. Brave mais malchanceux, disent les autres. ou encore galant, mais ennuyeux. Oh. Et là-dessus, ils se mettent à nous déchirer, vous et moi, à belles dents.
Apprends, Sancho, que partout où la vertu se montre, elle est persécutée. Aucun des grands hommes du passé n'a échappé à la calomnie. Aussi, accepterai-je celle dont je suis l'objet, pourvu qu'il n'y en ait pas plus que tu ne m'en as dit.
Oh, crénom de mon père, c'est que justement...
Parce qu'on en dit de pire.
Mais comment ? Mais si vous voulez vraiment savoir toutes les horreurs qu'on dit de vous, je m'en vais de ce pas chercher quelqu'un qui vous les comptera jusqu'à la dernière. Il s'agit de Samson, le fils de Bartholomé Carrasco, qui est arrivé hier au soir. Il revient d'étudier à Salamanque où on l'a fait bachelier. Quand j'ai été lui souhaiter la bienvenue, il m'a dit que votre histoire était déjà dans un livre qui a pour titre « L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche ». Il paraît qu'on y parle de moi sous mon vrai nom de Sancho Panza et de Madame Dulcinée du Toboso. Et aussi de choses qui se sont passées entre nous deux, tout seuls. C'est donc le diable, cet historien, qui les écrit pour savoir ça.
Je suis sûr, Sancho, que l'auteur de notre histoire n'est autre qu'un enchanteur fort savant. On ne peut rien cacher à ces gens-là de ce qu'ils entreprennent de raconter.
C'était sûrement un savant et un enchanteur avec un nom pareil, puisque d'après le bachelier Samson Carrasco, l'auteur de notre histoire s'appelle Sidi Ahmed Berengine ou Aubergine.
C'est donc un mort ?
Sans doute. J'ai toujours entendu dire que les Maures aiment les aubergines.
Mais là où tu te trompes, Sancho, c'est que Sidi n'est pas un nom. Ce mot en arabe signifie « monsieur ». Mais va, cours chercher Samson Carrasco, car ce que tu m'as dit me tient en haleine. Et je ne pourrai avaler une bouchée tant que je n'en saurai pas davantage. Bon.
Laissant là son maître, Sancho s'en fut à la recherche du bachelier avec lequel il revint presque aussitôt.
Seigneur Don Quichotte de la Manche, que votre grandeur daigne me donner ses mains à baiser. Par mon habit de bachelier, je jure que vous êtes l'un des plus fameux chevaliers errants que la terre ait jamais porté. Longue vie à Sidi Ahmed Benengeli, qui a écrit l'histoire de vos hauts faits, et plus longue encore à celui qui s'est soucié de les traduire de l'arabe dans notre langue pour l'universel divertissement des peuples.
C'est donc vrai que mon histoire existe ?
C'est tellement vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis certain qu'il y en a plus de 12 000 exemplaires publiés à Lisbonne, à Barcelone et à Valence. Pour ma part, je ne serais pas étonné qu'elle soit bientôt traduite par toutes les nations et dans toutes les langues.
Rien ne peut réjouir davantage un homme estimable et vertueux que de se voir célébré et imprimé de son vivant.
Votre histoire circule dans toutes les mains. Et elle est devenue à tous si familière qu'il suffit de voir une vieille rosse efflanquée pour qu'on dise aussitôt « Voilà Rocinante !» J'ajouterai que cette histoire est aussi inoffensive que divertissante, car on n'y rencontre pas l'ombre d'une expression inconvenante ou d'une pensée qui ne soit pas d'un bon catholique.
S'il en était autrement, ce serait écrire des mensonges et non des vérités. Mais asseyons-nous et dites-moi, monsieur le bachelier, quels sont parmi mes exploits ceux que l'on vante le plus dans cette histoire ?
Les opinions varient selon les goûts. Les uns préfèrent l'aventure des moulins à vent que votre grandeur prit pour des géants, d'autres la description des deux armées qui, au bout du compte, n'étaient que deux troupeaux de moutons, ou encore l'aventure du défunt que l'on allait enterrer à Ségovie. Tel prétend que le meilleur épisode est, à coup sûr, celui de la délivrance des galériens, tel autre qu'aucun n'égale celui des deux géants bénédictins et votre dispute avec le biscaïen.
Et de moi que dit-on ? Puisqu'il paraît que je suis un des principaux personnages de cette histoire.
On dit personnage, ami Sancho. Que Dieu me donne, mon cher Sancho, si vous n'êtes pas le deuxième rôle du livre. Et j'en connais qui préfèrent vos discours aux belles phrases des personnages les plus huppés de cette histoire. En revanche, d'aucuns s'étonnent que vous ayez pu croire à cet archipel que le seigneur Don Quichotte, ici présent, vous offrait de gouverner.
Bon. Le soleil n'a pas encore terminé sa course. Et plus le temps passe, plus Sancho aura acquis l'expérience nécessaire au métier de gouverneur. Mais dites-moi, l'auteur annonce-t-il par hasard une deuxième partie ?
Il en a promis une, mais ne l'a pas encore trouvée. Et ne sait pas qui peut l'avoir. Aussi, personne ne sait si elle paraîtra.
Mon maître et moi, nous allons lui donner matière à écrire non pas une deuxième partie, mais cent autres. S'il croit que nous allons nous endormir sur nos lauriers, il nous connaît mal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si mon maître voulait m'écouter, nous serions déjà sur les routes, à venger les offenses et redresser les torts, comme c'est l'usage et la coutume des bons chevaliers errants.
C'est Rocinante. Voilà qui est de très bon augure. Monsieur le bachelier, je vous annonce que nous allons bientôt reprendre la route. Par où, selon vous, dois-je commencer mon expédition ?
Je vous conseille de vous rendre dans la ville de Saragosse. où auront lieu pour la Saint-Georges des joutes solennelles, au cours desquelles vous pourrez vous mesurer aux chevaliers aragonais, autant dire aux meilleurs chevaliers du monde. Mais je vous en prie, soyez prudent dans le choix de vos aventures, car votre vie ne vous appartient plus. Elle est à tous ceux qui, dans leur malheur, réclament votre aide et votre protection.
Ah, c'est bien ce qui m'ennuie, monsieur Samson. Mon maître n'hésite pas plus à s'attaquer à une centaine d'hommes armés qu'un glouton a dévoré une demi-douzaine de pastèques. Sacre bleu! Il ne s'agit pas de crier à tout bout de champ « suce à l'ennemi ». Il y a un temps pour attaquer et un temps pour faire retraite. Et je tiens à l'avertir que si je pars avec lui, c'est à la condition qu'il se charge seul de tous les combats et que je n'ai pas d'autre tâche que de m'occuper de sa personne, toilette et entretien. Et là, je serai au petit soin. Moi, monsieur le bachelier, je ne cherche pas à me faire une réputation de courageux. Je veux juste être reconnu comme le meilleur et le plus loyal des écuyers qui ait jamais servi chevalier errant. Et si mon maître Don Quichotte, en reconnaissance de mes bons et nombreux services, veut bien me donner un de ces archipels que nous n'allons pas manquer, selon lui, de trouver sur notre route, tant mieux. Et s'il ne m'en donne aucun, tant pis, je n'en mourrai pas. D'ailleurs, peut-être bien que le pain que je mangerai aura meilleur goût sans gouvernement qu'avec. Sancho, je suis né, et Sancho, je veux mourir.
Mon cher Sancho, vous parlez comme un professeur. Ayez confiance en Dieu et en votre maître, le chevalier Don Quichotte, et vous verrez que ce n'est pas un archipel, mais tout un royaume qui vous sera attribué.
Un peu plus, un peu moins. Dans tous les cas, je peux vous assurer, monsieur Carrasco, que si mon maître me donne un royaume, il n'aura pas à le regretter. Je me suis tâté le pouls, et j'ai toute la santé qu'il faut pour régner sur des royaumes et pour gouverner des archipels.
Nous en reparlerons le moment venu, Sancho. Il me tarde d'y être.
Ils fixèrent la date du départ à 8 jours de là. Don Quichotte recommanda le secret à Samson Carrasco, surtout vis-à-vis du curé, de Maître Nicolas, de sa nièce et de sa gouvernante. Le bachelier promit et prit congé de Don Quichotte en lui demandant de l'informer, dès qu'il en aurait loisir, de tout ce qui lui adviendrait de bon et de mauvais. Quant à Sancho, il s'en alla faire les préparatifs nécessaires pour le voyage.
À suivre. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Un feuilleton adapté par Juliette Eman.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Et publié aux éditions du Seuil.
Conseillère littéraire, Catel Guillot.
Dixième épisode.
Avec
Daniel Koenigsberg,
Bernard Menez,
Laurent Ferraro,
Luc-Antoine Diquero,
Jean-Pierre Becker,
Martine Chambacher,
Camille Figuereo,
Igor Medjiski
et Corinne Martin.
Musique originale
Sébastien Schuller.
Bruitage Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossier.